Une mission impossible, sûrement. Mais essayer impliquait de conserver tous les mercenaires qui s'étaient enrôlés et d'en trouver d'autres. En fait, de recruter tout homme montrant de l'intérêt pour le métier des armes. Un fichu défi. Dayelin s'étrangla avec son vin, dont elle dut cracher une partie. Tout sautant, elle sortit un mouchoir de dentelle de sa manche et se tamponna le menton. À travers le lien, Elaine sentit souffler un vent de panique.
« Que la lumière me brûle ! Elaine, tu ne peux pas croire que... Je suis une archère, pas un général. C'est ce que je suis depuis toujours. N'as-tu pas compris ? J'ai fait ce que je devais faire, quand les circonstances m'y forçaient. En outre, je ne suis plus elle, mais moi, tout simplement, et... »
L'ancienne héroïne se tut, consciente qu'elle en avait peut-être déjà trop dit. Et ce n'était pas la première fois. Sous le regard inquisiteur de Dagelin, elle devint rouge comme une pivoine. Officiellement, l'archère venait du camp d'or, un pays où les femmes s'habillaient comme elle. À l'évidence, Dayelin n'avait pas gobé ce mensonge. Chaque fois que Birgit faisait une gaffe, elle menaçait de fondre sur elle pour lui tirer les vers du nez. D'un regard, Elaine fit comprendre à sa championne qu'elle devrait bientôt avoir une petite conversation. Birgit en devint encore plus rouge, un exploit que son Aes Sedai n'aurait pas cru possible. Dans le lien, la mortification submergea tout, et la future reine sentit que ses joues se coloraient aussi. Aussitôt, elle arbora un visage de marbre. Avec un peu de chance, on n'assimilerait pas sa réaction à un vif désir de se tortiller sur son siège à cause de la honte de sa championne. Cette affaire de reflet pouvait parfois être très gênante. Dayelin cessa très vite de se concentrer sur Birgit. Après avoir remis le mouchoir en place, elle posa son gobelet sur le plateau, plaqua les mains sur ses hanches et se campa face à Elaine, l'air moins commode que jamais.
« Depuis toujours, les gardes royaux sont l'élite de l'armée. Mais ça, Elaine, c'est de la folie. Tu peux t'attirer l'hostilité de tous, des berges du fleuve Erinin jusqu'aux montagnes de la brume. »
Elaine se concentra sur la notion de sérénité. Si elle se trompait, son royaume deviendrait un autre Kaerien. Un pays où régnerait le chaos et où couleraient des torrents de sang. Et elle perdrait la vie, bien entendu. Un prix pas assez élevé pour la dissuader. Ne pas essayer était impensable et serait tout aussi catastrophique pour Andorre. Se calmer, oui. Une reine ne pouvait trahir son angoisse, même quand elle crevait de peur. Surtout quand c'était le cas. Des dizaines de fois, sa mère lui avait conseillé d'expliquer ses décisions le moins souvent possible. Plus on voulait justifier et plus il fallait développer, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de temps pour autre chose. Gareth Bryne, lui, optait pour des explications chaque fois que c'était praticable, une façon de motiver ses troupes en quelque sorte. Aujourd'hui, Elaine penchait du côté du vieux guerrier au palmarès bien garni en victoire.
« J'ai 3 concurrentes déclarées, et peut-être une 4e qui ne l'est pas. »
Elaine se força à croiser le regard de Dayelin, sans agressivité, même si l'autre femme risquait de s'y méprendre. Mais si c'était le cas, eh bien, tant pis.
En soi, Arimilla est une quantité négligeable. Mais Nassine lui apporte le soutien de la maison Kaeren. Et même s'il est fou, c'est un renfort de poids. Nayan et Elenia sont en prison, c'est vrai, mais pas leurs soldats. Les fidèles de Nayan peuvent discutailler jusqu'à ce qu'il se soit trouvé un chef. Jarid n'en reste pas moins la haute chair de la maison Sarand. Et il prendra des risques pour soutenir les ambitions de sa femme. Quant aux maisons Barin et Anchar, elles fricotent avec ses 2 prétendantes. Le mieux que je puisse espérer, c'est que l'une s'allie avec Sarand et l'autre avec Aron. En Andorre, 19 maisons sont assez puissantes pour entraîner avec elles les familles mineures. 6 sont contre moi, et 2 me soutiennent.
Elaine ne mentionna pas les 3 qui s'étaient prononcés pour Dayelin. Jusqu'à nouvel ordre, Egwene les avait piégés au Mourandi. Quand Elaine lui désigna un fauteuil, Dayelin s'assit et arrangea soigneusement sa robe. L'air bien moins hostile, elle dévisagea la future reine sans rien trahir de ses pensées.
« Je sais tout ça aussi bien que toi, »
dit-elle.
« Mais Luan et Elorienne se rallieront à toi. Et Abel aussi, j'en suis sûr. Et d'autres maisons se rendront à la raison. Elaine, ce n'est pas une véritable succession. Une Trakande remplacera une Trakande, c'est tout. Et même les authentiques successions ont rarement donné lieu à des guerres ouvertes. Si tu transformes la garde royale en armée, tout peut arriver. »
Elaine renversa la tête en arrière et éclata de rire. Sans joie, mais comme en écho au roulement de tonnerre.
« Tayelin, j'ai déjà pris tous les risques en revenant ici. Tu dis que les maisons Norwellin et Traeman me soutiendront ? Idem pour Pendar ? Dans ce cas, nous en sommes à 5 contre 6. Je doute que les autres maisons se rendent à la raison, comme tu dis. Si l'une d'entre elles prend position avant que la couronne repose sur ma tête, ce sera contre moi, pas en ma faveur. »
Avec un peu de chance, ces seigneurs et ces dames s'abstiendraient de s'allier avec des sbires de Gaibril. Mais Elaine, justement, détestait se fier à la chance. Ça, c'était la spécialité de Matt Cotton. Dire que la plupart des gens croyaient dur comme fer que Rand avait tué Morgaz. Et doutaient que Gaibril ait vraiment été un rejeté. Réparer le mal fait à Andor par Ravine risquait de lui prendre sa vie entière. Même si elle égalait la longévité des membres de la famille. Plusieurs maisons, elle le savait, refuseraient de la soutenir à cause des abominations que Gaibril avait commises au nom de Morgaz. D'autres la combattraient parce que Rand avait clamé qu'il comptait lui donner le trône. Amoureuse folle de cet homme, elle le maudissait quand même d'avoir proféré une telle ânerie, même si c'était ça qui incitait Dailin à la prudence. Pour chasser une marionnette du trône, le plus humble paysan andorien serait prêt à brandir sa faux.
« Tant que possible, je veux éviter que des andoriens tuent des andoriens. Mais succession ou non, Jarid est prêt à se battre, même avec Elenia derrière les barreaux. Nayan aussi est résolu à en découdre. »
Le mieux serait de transférer ces deux femmes à Kaemlyn aussitôt que possible. Depuis Haringill, elle risquait de pouvoir transmettre des messages et des ordres.
Arimilla est prête, avec les hommes de Nassine derrière elle. Pour tous ces gens, c'est bel et bien une succession. Pour les dissuader de se battre, il faut les effrayer. Si Birgit peut faire de la garde royale une armée, tant mieux, parce que si je n'ai pas de troupes au printemps, je serai fichu. Si cet argument ne suffit pas, pense au Séan Chania. Ils ne se contentent pas de Tanchico et des Boudards. Et je ne laisserai pas s'emparer d'Andor. Même chose pour Arimilla.
Après avoir jeté un coup d'œil en coin à Birgit, Dailin se passa la langue sur les lèvres et tira par réflexe sur le devant de sa robe. Si elle n'avait peur de quasiment rien, les Séan Chania étaient une autre affaire.
« J'espérais pouvoir éviter une guerre civile, »
murmura-t-elle, comme si elle pensait tout haut. Une déclaration qui pouvait être lourde de sens, ou non. Une petite sonde permettrait de le déterminer.
« Gawain !»
s'écria soudain Birgit, l'air ravi. Un vif soulagement se déversa à travers le lien.
« Une fois ici, il prendra le commandement. Après tout, il sera ton premier prince de l'épée. Parle-le de ma mère dans le puits d'une vache !»
Le tonnerre ponctua cette sortie d'Elaine. Pourquoi Birgit avait-elle sauté du coq à l'âne à ce moment précis ? Dailin sursauta et Elaine s'empourpra de nouveau. À voir la réaction de la noble dame, elle mesura à quel point ce juron était grossier. Très embarrassant, ça. L'amitié qui liait Dailin à Morgaz n'aurait pas dû entrer en ligne de compte. Pour se donner une contenance, Elaine but une gorgée de vin et le trouva ignoblement amer. Chassant une image de Ligny en train de la menacer d'un lavement de bouche, elle se souvint qu'elle était une femme adulte occupée à conquérir un trône. De toute sa vie, sa mère s'était-elle sentie ridicule aussi souvent qu'elle en quelques semaines ? En toute honnêteté, elle en doutait.
« Oui, Birgit. Il prendra le commandement quand il sera là. »
Trois messagers fonçaient vers Tarvalon. Même si Elaïda les interceptait tous, Gawain finirait par apprendre qu'elle revendiquait le trône, et il viendrait. Il fallait qu'il vienne. Sans illusion sur ses propres compétences militaires, Elaine ne pouvait pas se fier à Birgit. Craignant de ne pas être à la hauteur de sa légende, l'archer semblait avoir peur d'essayer. Affronter une armée tant qu'on voudrait. En diriger une, jamais de la vie. Birgit était consciente de sa confusion mentale. Si son visage restait de marbre, ses émotions, à travers le lien, étaient un mélange de fureur contre elle-même et de honte. La rage prenant souvent le dessus. Avant d'être victime de la contagion à travers le lien, Elaine décida de revenir sur la guerre civile évoquée par Dailin. Mais elle ne put rien dire, car les grandes portes rouges s'ouvrirent. Pas sur Ninévé ou Vendaine, seulement pour laisser passer deux femmes du peuple de la mer, pieds nus malgré le mauvais temps. Précédées par un nuage de parfums musqués, pantalons et chemisiers de soie, couteaux aux manches incrustées de pierres précieuses, colliers d'or ou d'ivoire, bagues et bracelets. Les cheveux bruns déjà grisonnants de Rhenail d'Incalon dissimulaient presque les petits anneaux qui ornaient ses oreilles, 5 pour chacune. Mais son regard arrogant en disait aussi long sur son rang que la chaîne d'or laissée de médaillons, qui reliait une de ses boucles d'oreilles à son anneau nasal. Le visage fermé, elle avançait avec une grâce ondulante, tout en semblant prête à renverser un mur s'il le fallait. Plus petite d'une bonne main que sa compagne, la peau d'un noir d'ébène, Zaïda Dinparédé portait la moitié moins de médaillons sur la joue gauche. Plus autoritaire qu'arrogante, elle ne semblait pas douter un instant qu'on lui obéirait. Ses cheveux noirs crépus presque gris, elle restait d'une stupéfiante beauté. Une de ces femmes qui deviennent de plus en plus splendides avec l'âge. Dayeline tressaillit et porta une main à son nez avant de se reprendre. Une réaction fréquente lorsqu'on voyait des Hatta admirés pour la première fois. Elaine fit une grimace, sans rapport avec les anneaux nasaux. Un instant, elle envisagea de lâcher un juron plus imagé encore que le précédent. À part les rejetés, ces deux femmes étaient les dernières personnes qu'elle avait envie de voir. Réhenne était censée s'assurer que ces choses-là ne se produisent pas.
« Excusez-moi, »
dit Elaine en se levant.
« Mais je suis très occupée. Des affaires d'État, comprenez-vous? Sans ça, je vous aurais réservé un accueil digne de votre rang. »
Le peuple de la mer était très pointilleux sur le protocole et le savoir-vivre. Les siens, en tout cas. Très probablement, ces femmes avaient roulé dans la farine la première servante, en omettant de lui dire qu'elles voulaient voir Elaine. Mais elles étaient tout à fait capables de prendre la mouche, si celle-ci les recevait sans se lever, alors qu'elle n'était pas encore couronnée. Que la lumière les brûle. Elaine ne pouvait pas se permettre de les offenser. Birgit vint à côté d'elle et lui prit son gobelet. À travers le lien, elle exprima une profonde méfiance. Pour avoir souvent gaffé devant elle, l'archère ne se sentait pas à l'aise en présence de ses femmes.
« Je vous verrai plus tard, si la lumière le veut bien. »
Le peuple de la mer adorait les phrases pompeuses. Celle-ci avait l'avantage d'être courtoise et d'offrir une porte de sortie, au cas où. Reneil ne s'immobilisa pas avant d'être quasiment nez à nez avec Elaine. D'un geste de sa main tatouée, elle lui donna la permission de s'asseoir.
« Permission, mon œil !»«
Tu m'évites ces derniers temps, »
dit Reneil d'une voix très grave pour une femme, et plus glaciale que la neige qui s'écrasait sur le toit.
« N'oublie pas que je suis la régente des vents de Nesta d'Inreas de Lune, la maîtresse des navires des Hatta admirés. Tu dois encore t'acquitter de la dernière partie du marché passé au nom de ta tour blanche. »
Le peuple de la mer n'ignorait rien de la situation actuelle de la tour. Par ces temps, le dernier vagabond en était informé. Pour ne pas ajouter à ses problèmes, Elaine n'avait pas cru bon de proclamer dans quel camp elle était, pour le moment en tout cas.
« Tu vas me recevoir, et sur le champ !»
ordonna Reneil. Adieu le protocole et le savoir-vivre.
« C'est moi qu'elle évite, pas toi, régente des vents. »
Contrairement à Reneil, Zaïda parlait sur le ton d'une conversation de salon. Au lieu de traverser la pièce au pas de charge, elle avait pris son temps, s'arrêtant pour caresser du bout des doigts un grand vase de porcelaine, puis se dressant sur la pointe des pieds, pour regarder dans un kaléidoscope à quatre tubes, exposé sur une haute étagère. Quand elle se tourna vers Elaine et Reneil, ses yeux brillèrent de malice.
« Après tout, le marché fut passé avec Nesta d'Inreas, qui parlait au nom des navires. »
Maîtresse des vagues du clan Catellar, Zaïda était, en plus, l'ambassadrice de la maîtresse des navires. Auprès de Rand, pas d'Andorre, mais son mandat l'autorisait à parler et à s'engager au nom de Nesta. Après avoir fait tourner les tubes d'or, elle jeta un coup d'œil dans le nouveau.
« Elaine, tu nous avais promis 20 formatrices. » Jusque-là, nous en avons vu arriver une. »
À cause de l'irruption des deux femmes, Elaine n'avait pas vu Merylil entrer derrière elle, puis refermer les portes. Plus petite encore que Zaïda, la sœur grise était très élégante dans sa robe de laine bleue ourlée de fourrure argentée et rehaussée de petites pierres de lune sur le corsage. Après 2 semaines à former les régentes des vents, la pauvre était épuisée. Assoiffée de connaissances, ces femmes n'auraient aucun scrupule à la presser comme un citron. Naguère aussi imperturbable qu'une statue, Merylil avait l'air hagard et les yeux écarquillés, comme si tout ce qu'elle voyait et entendait la surprenait. Les mains croisées, elle attendait près des portes, visiblement ravie de passer inaperçue. Dayeline se leva, foudroya du regard les 2 intruses et grogna.
« Un peu de respect, je vous prie. Vous êtes en Andorre, pas sur un de vos bateaux. Et Elaine Trakand portera bientôt la couronne. Votre marché sera honoré en temps voulu. Pour l'heure, nous avons d'autres soucis en tête.
« Il n'y a rien de plus important !»
rugit Reneil.
« Honoré, dites-vous. Une façon de vous en porter garante, si ça devait ne pas s'avérer. Sachez que vous finirez pendu par les pieds au gréement de... »
Zaïda claqua des doigts, rien de plus. Et Reneil se mit à trembler. S'emparant de la boîte en argent accrochée à un de ses colliers, elle la porta à son nez pour inspirer ce qui devait être l'équivalent de sel. Régente des vents de la maîtresse des navires, elle ne manquait pas d'autorité parmi les siens. Pour Zaïda, elle n'était qu'une régente parmi d'autres, et ça la vexait terriblement. Elaine aurait parié pouvoir tirer parti de cette rivalité pour se débarrasser des deux femmes. Mais comment s'y prendre? Décidément, le grand jeu coulait désormais aussi dans son sang. Elle contourna Reneil, toujours muette de fureur, comme si elle était une colonne de marbre. Mais ne se dirigea pas vers Zaïda. Si quelqu'un avait le droit de se montrer hautain, c'était elle. Et si elle lui concédait le moindre avantage, Lata Admirée lui prendrait bientôt son scalp pour se faire confectionner une perruque. Devant la cheminée, Elaine se réchauffa de nouveau les mains.
« Nesta d'Inreas a pensé que nous honorerions le marché. Sinon, elle ne l'aurait pas accepté. La coupe des vents est retournée en votre possession. Pour les 19 sœurs manquantes, eh bien, il nous faut un peu de temps. Je sais que tu t'inquiètes pour les bateaux présents à Eboudar lors de l'arrivée des Seanchania. Demande donc à Reneil d'ouvrir un portail pour Théar. Là-bas, il y a des centaines de navires à t'admirer. »
Les rapports l'affirmaient.
« Tu pourras apprendre ce qu'ils savent et rejoindre ton peuple. Contre les Seanchania, il aura besoin de toi et de tes compagnes. Et vous ne me traînerez plus dans les jambes. Bien sûr, nous vous enverrons les 19 sœurs dès que ce sera possible. »
Merilil ne bougea pas, mais devint blanche comme un linge, à l'idée de se retrouver seule parmi les Atan Miré. Zaïda colla de nouveau son œil au kaléidoscope. Puis elle jeta un regard en coin à Elaine et sourit.
« Je dois rester ici jusqu'à ce que j'aie pu parler à Randaltor, s'il se montre un jour. »
Le sourire se dissipa et revint. Avec cette femme, Rand aurait du souci à se faire.
« Et jusqu'à nouvel ordre, j'entends garder avec moi Reneil et ses compagnes. Quelques régentes de plus ou de moins ne feront aucune différence contre les Seanchania. Ici, avec un peu de chance, elles apprendront deux ou trois choses utiles. »
Reneil grogna juste assez fort pour qu'on l'entende. Zaïda fronça les sourcils et pianota sur le tube en or qui se trouvait juste au niveau de sa tête.
« Toi comprise, »
dit-elle.
« Il y a 5 Aes Sedai dans ce palais. Certaines pourraient nous former. »
À croire que cette idée venait juste de l'effleurer. Si c'était le cas, alors... Elaine pouvait soulever les deux Atta admirés d'une seule main. Tant qu'à délirer...
« Oui, ce serait formidable. »
intervint Merilil en avançant d'un pas. Jetant un coup d'œil à Reneil, elle s'immobilisa et s'empourpra jusqu'aux oreilles. Croisant de nouveau les mains, elle se protégea derrière une façade de soumission. Birgit secoua la tête, stupéfaite. Les yeux ronds, Daeline regarda Aes Sedai comme si elle la voyait pour la première fois.
« Si la lumière le veut, nous trouverons un arrangement, »
dit Elaine, prudente. Ne pas se masser les tempes lui coûtait de gros efforts. Si seulement elle avait pu imputer sa migraine à l'orage. Nineveh refuserait bruyamment de jouer les formatrices, et Vanden ferait comme si elle n'avait pas entendu. Karéan et Sareïta, en revanche, pouvaient se montrer plus coopératives.
Quelques heures par jour seulement, quand les sœurs auront le temps.
Elaine évita de regarder Merilil. Au fond, même Karéan et Sareïta risquaient de refuser d'être vidés de leur jus. Zaïda se tapota pensivement les lèvres.
« Marché conclu, avec la lumière pour témoin. »
Elaine tressaillit. Selon la maîtresse des vagues, elle venait de passer un nouvel accord. Si néophyte qu'elle fût, en matière de marchandage avec les Atta admirés, la future reine en conclut qu'on devait s'estimer heureux de s'en sortir avec sa chemise. Certes, mais cette fois, c'était différent. Qu'avaient à gagner les sœurs dans cette affaire? Un marché devait profiter aux deux parties. Zaïda sourit comme si elle lisait les pensées de son interlocutrice. Une des portes s'ouvrit et Elaine saisit au vol ce prétexte pour détourner la tête de Zaïda. Avec déférence mais sans servilité, Rehaen Arfor entra et fit une révérence qui eut parfaitement convenu pour une haute chaire devant sa reine. N'était que toute haute chaire digne de ce nom, se serait incliné au moins aussi bas devant la première servante. Ses cheveux gris arrangés en chignon lui faisant comme une couronne, Rhéenne portait une robe rouge et blanc, ornée d'un lion d'or dont la tête recouvrait son opulente poitrine. Bien que n'ayant aucune influence sur le choix de la reine, elle avait adopté cette tenue protocolaire dès l'arrivée d'Elaine. Comme si la remplaçante de Morgaz venait d'investir le palais. En avisant les deux femmes qui lui avaient filé sous le nez, elle se rembrunit. Mais ça n'alla pas plus loin. Pour le moment. Bientôt, elle découvrirait ce qu'il en coûtait de déplaire à la première servante.
« Mazrim Taïm vient enfin d'arriver, madame. »
Un « madame » qui sonnait comme un « majesté ».«
Dois-je lui dire d'attendre ?»« Ce n'est pas trop tôt, »
pensa Elaine. Deux jours qu'elle avait convoqué cet homme.
« Oui, maîtresse Harfor. Servez-lui du vin. Notre troisième cru, je dirais. Et dites-lui que je le verrai dès que… »
Taïm franchit le battant ouvert, comme s'il était chez lui. Avec lui, pas besoin de présentation. Les dragons cousus sur les manches de sa veste noire, une référence que ceux que Rand arborait sur ses bras, même si la comparaison ne plairait sûrement au bonhomme, suffisait à l'identifier. Presque aussi grand que Rand, le nez crochu et les yeux très noirs comme ceux d'un devin, Taïm était un colosse, qui se déplaçait avec la grâce mortelle d'un champion. Mais un halo de ténèbres l'enveloppait, absorbant une partie de la lumière ambiante. Avec lui, la violence n'était jamais loin, et elle semblait prête à exploser à tout moment. Deux autres types en veste noire le suivaient. Un chauve aux yeux bleus et à la longue barbe grise, et un gars plus jeune, brun et très mince, qui affichait l'arrogance typique des êtres peu expérimentés. Tous deux portaient sur leur col l'épée d'argent et le dragon en émail rouge. Aucun des trois visiteurs n'était armé. Quel besoin aurait-il eu d'une lame ? Le salon privé lui semblant soudain plus petit et bondé de monde, Elaine s'unit au Saïdar et signifia qu'elle voulait former un lien. Merylil se joignit à elle. Rhéenyl aussi, si surprenant que ce fût. Jetant un coup d'œil à la régente des vents, Elaine vit qu'il n'y avait pas de quoi s'ébaubir. Le teint grisâtre, Rhéenyl serrait si fort le manche de son couteau qu'elle devait en avoir mal aux doigts. Durant son séjour à Kemlin, elle avait eu le temps d'apprendre ce qu'était un Achaman. Même s'il ne pouvait pas voir l'aura qui enveloppait les trois Aes Sedai, Taïm et ses compagnons sentirent que l'une d'elles, au moins, s'était unie à la source. Le chauve se raidit et le jeune coq serra les poings. L'air mauvais, il s'était sans doute connecté au Saïdin. Elaine regretta sa réaction instinctive, mais il n'était pas question de revenir en arrière. Taïm irradiait le danger, comme des flammes diffusaient de la chaleur. Dans le cercle qu'elle formait avec Merylil et Rhéenyl, la future reine puisa généreusement de l'énergie. Tous les sens amplifiés, elle éprouva une joie profonde et exaltante. Ainsi gorgée de pouvoir, elle aurait pu raser le palais. Était-ce suffisant pour affronter Taïm et les deux autres ? Rien ne le garantissait. Elaine regretta de ne pas avoir avec elle un des trois Angréals découverts à Eboudar. Des artefacts désormais en sécurité, avec les autres objets trouvés dans la cache, jusqu'à ce qu'elle ait le temps de les étudier. Taïm regarda ses compagnons et eut un rictus méprisant.
« Vous savez compter, les gars. Il y a deux Aes Sedai, ici. De quoi vous faire peur ? Et vous voudriez effrayer la future reine d'Andorre ?»
Les deux hommes se détendirent, puis tentèrent d'imiter la suprême décontraction de leur chef. Ignorant tout du Saïdar et du Saïdin, Rhéenne s'était tournée vers les trois hommes dès leur intrusion, et elle les foudroyait du regard. Achaman ou pas, les gens, selon elle, devaient se comporter convenablement. Quand elle marmonna entre ses dents, trois mots seulement furent audibles.
« De la vermine. »
Lorsqu'elle comprit que tout le monde avait entendu, la pauvre femme s'empourpra. Un spectacle dont Elaine n'avait jamais été témoin. Mais la première servante se reprit très vite.
« Oui, madame, de la vermine. Des rats, m'a-t-on dit, grouillent dans nos gardes-manger. C'est rare à cette époque de l'année, surtout en si grand nombre. Si vous voulez bien m'excuser, je vais m'assurer qu'on répande du poison et qu'on pose des pièges. » « Restez ici, »
lâcha Elaine, très calme.
« La vermine peut attendre. »
« Deux Aes Sedai, » avait dit Taïm. Donc il n'avait pas conscience que Rhéenyl savait canaliser le pouvoir, et il avait insisté sur ce chiffre. Une femme de plus aurait-elle modifié l'équilibre ? Ou en fallait-il davantage ? À l'évidence, Taïm savait que les Aes Sedai pouvaient être dangereuses, même si elles ne formaient pas un cercle de 13. Pourtant, avec les deux autres, il avait déboulé chez elle sans demander la permission.
Rien. Vous raccompagnerez ces braves gens quand j'en aurai fini avec eux.
Les compagnons de Taïm firent la moue en s'entendant traiter de braves gens. Le faux dragon, lui, ne broncha pas. L'esprit très vif, il avait tout compris du bref dialogue sur la vermine. À une époque, Rand avait eu besoin de cet homme. Mais pourquoi le gardait-il près de lui et à un poste si important? Cela dit, ici, Taïm n'avait aucune autorité. Elaine s'assit et prit le temps d'arranger sa robe. Cet homme allait devoir venir se camper devant elle, comme pour lui présenter une requête, ou se contenter de parler à la nuque d'une femme qui refuserait de tourner la tête vers lui. Un moment, Elaine envisagea de transmettre le contrôle du cercle à une de ses compagnes. Une bonne idée, puisque les Achamans allaient se concentrer sur elle. Mais Renail, toujours furieuse et terrorisée, risquait de frapper dès qu'elle aurait les commandes. Effrayée aussi, Merylil gardait les yeux ronds et la bouche entrouverte, comme si elle était une fois de plus frappée de stupéfaction. Dans cet état, la lumière seule savait ce qu'elle risquait de faire, si elle se trouvait responsable du cercle. Dailin va se placer à côté d'Elaine, comme si elle entendait la protéger des Achamans. Quels que soient les sentiments de la haute chair de Taravin, elle restait de marbre. Toujours à côté du kaléidoscope, Zaïda faisait de son mieux pour paraître petite, frêle et inoffensive. Mais elle avait les mains dans le dos, et son couteau n'était plus glissé sous sa ceinture de soie. Appuyée contre la cheminée, la main gauche sur le manteau, Birgit semblait rêvasser. Le fourreau de son couteau vide, elle était prête à un lancer de la main droite, qui reposait le long de son corps. Un arc armé qui tirerait, si Elaine lui en donnait l'ordre à travers leurs liens. Fidèle à sa politique, la future reine ne daigna pas tourner la tête vers les intrus.
« Maître Taïm, d'abord tu ne réponds pas à ma convocation, puis tu entres ici sans y être invité. »
Et si cet homme était connecté au Saïdine? À part le couper de la source, il y avait un moyen d'empêcher un mal de canaliser. Une méthode risquée, qui exigeait de grandes compétences, et dont Elaine connaissait seulement les grandes lignes. Taïm vint se placer devant elle, à quelques pas, sans sembler disposé à formuler une requête. Conscient de sa valeur, il la surestimait sans doute. Mais ce n'était pas le moment de le lui faire remarquer.
Dehors, l'orage se déchaînait, et les éclairs projetèrent d'étranges lueurs sur le visage du faux dragon. Face à lui, bien des gens auraient été intimidés, même sans son étrange veste et son nom universellement redouté. Pas Elaine, hors de question. Taïm se gratta pensivement le menton.
Sauf erreur de ma part, vous avez fait mettre en berne tous les étendards du dragon de Kemlin, maîtresse Elaine.
Un ton goguenard, même si le regard restait sinistre. Dailin grogna de rage devant l'affront fait à Elaine, mais Taïm l'ignora.
Les troupes du Saldaea se sont retirées dans les camps d'entraînement de la Légion, à ce qu'on dit. Et les derniers Aiel seront bientôt eux aussi cantonnés dans des camps hors de Kemlin. Que dira-t-il quand il apprendra ça?
Inutile de préciser à qui se référait ce « il ».
Dire qu'il vous a envoyé un cadeau. Du sud. Je vous le ferai livrer plus tard.
Le moment venu,
lâcha Elaine, de marbre.
Andorre s'alliera au dragon réincarné. Mais mon royaume n'est pas une province annexée, ni pour lui, ni pour quiconque d'autre.
La future reine posa les mains bien à plat sur les accoudoirs de son fauteuil. Avoir convaincu les Aiel et les soldats du Saldaea de partir était son plus beau succès jusque-là. Même avec la flambée de la criminalité, ça restait nécessaire.
Quoi qu'il en soit, maître Taïm, ce n'est pas à toi de me rappeler à l'ordre. Si Rand est mécontent, je verrai ça avec lui.
Taïm arqua un sourcil et eut un rictus.
Que la lumière me brûle!
Se tensa Elaine.
Je n'aurais pas dû prononcer le nom de Rand.
Taïm croyait savoir de quelle manière elle comptait voir avec Rand s'il était furieux. Et il ne se trompait pas. Si Elaine pouvait entraîner Rand dans un lit, elle n'hésiterait pas un instant. Pas pour l'amadouer, mais parce qu'elle en avait envie.
Quel cadeau m'a-t-il envoyé?
La colère finit par l'emporter. Contre Taïm et son insolence, contre Rand qui ne revenait pas, et contre elle-même, parce qu'elle pensait à un fichu cadeau.
Vous avez érigé des fortifications sur une lieue et demie, en Andorre.
Plus de la moitié de la cité intérieure. Combien de ces sinistres types pouvaient s'y trouver? Rien qu'à y penser, Elaine en eut les sangs glacés.
Avec la permission de qui, Maître Taïm? Surtout, ne me réponds pas du dragon réincarné. En Andorre, il n'a pas de permission à donner.
Daïelin tressaillit près d'Elaine. Une affirmation inexacte, mais en y croyant assez fort, elle deviendrait la vérité.
En plus, tu as interdit à la garde royale d'entrer dans ton domaine.
Depuis le retour d'Elaine. Avant, les gardes n'avaient même pas essayé.
En Andorre, Maître Taïm, la loi s'applique sur tout le territoire. Et la justice est la même pour les seigneurs, les fermiers et les achamans. Je ne te menace pas d'une entrée en force.
Taïm sourit de nouveau.
Parce que je ne m'abaisserai pas à ça. Mais tant que mes gardes devront rester à la porte, n'espère plus recevoir ne serait-ce qu'une pomme de terre. Vous pouvez tous voyager, je le sais. Que tes achamans gaspillent leur pouvoir en faisant les courses.
Le sourire se volatilisa. Troublé, Taïm ne tarda pas à se reprendre.
« La nourriture est un problème secondaire, »
dit-il en écartant les mains.
« Comme vous venez de le dire, mes hommes peuvent voyager. Partout où je veux, même. Je doute que vous puissiez étendre votre blocus à plus de 5 lieues de Kaemlyn. Mais si vous y parveniez, ça ne me gênerait pas. Pourtant, je vais vous concéder un droit de visite, quand vous le demanderez. Sous contrôle, avec une escorte en permanence. Dans la tour noire, on s'entraîne dur, et des hommes meurent presque chaque jour. Je ne veux pas d'accident. »
Elaine s'agaça que cet homme sache si précisément où s'arrêtait son influence hors de Kaemlyn. Mais au fond, ça n'était pas très grave. L'allusion à voyager n'importe où et aux accidents était-elle une menace voilée? Non, à coup sûr. Elaine bouillit de colère quand elle comprit pourquoi elle était certaine que Taïm ne la menaçait pas. C'était à cause de Rand, bien entendu. Mais elle ne se cacherait pas derrière lui. Des visites sous contrôle? Et sur demande? Encore un peu, et elle allait réduire ce sale type en cendres. Soudain, elle prit conscience de ce que Birgit lui transmettait via leur lien. De la colère. Le reflet de la sienne, plus celle de la championne, qui venait ainsi alimenter sa fureur. Tendue à craquer, l'archère brûlait d'envie de lancer son couteau. Encore un peu de rage, et Elaine risquait de perdre contact avec le Saïdar, ou de frapper sans retenue. Mobilisant sa volonté, elle parvint à se calmer un peu, en surface au moins, et assez pour parler d'un ton égal.
« Mes gardes viendront chez toi tous les jours, Maître Taïm. Et comment feront-ils avec ce temps? On s'en fiche. Je les accompagnerai peut-être parfois, avec quelques autres sœurs. »
Si l'idée que des Aes Sedai fouinent dans sa tour noire le dérangeait, Taïm ne le montra pas. Mais Elaine s'efforçait d'établir l'autorité du royaume d'Andorre, pas de provoquer ce pauvre type. Elle effectua très vite un exercice appris pendant son noviciat. Le fleuve retenu par ses berges. Idéal pour se calmer, ça. Le résultat ne se fit pas attendre. À présent, elle avait seulement envie d'envoyer tous les gobelets et la carafe à la figure de Taïm.
« Je veux bien accéder à ta requête, au sujet de l'escorte. Mais il ne faudra rien nous cacher. Pas question pour moi de couvrir des activités criminelles. Nous comprenons-nous bien ?»
Taïm esquissa une révérence moqueuse. Moqueuse. Mais il parla d'un ton peu amène.
« Je vous comprends à la perfection. Mais comprenez-moi aussi. Mes hommes ne sont pas des paysans qui portent la main à leur front sur votre passage. Poussez un achaman trop loin, et vous découvrirez les limites de vos lois. »
Elaine ouvrit la bouche pour dire à ce butor que les lois, en Andorre, n'avaient pas de limites.
« L'heure est venue, Elaine Tracande, »
annonça une voix de femme dans l'encadrement de la porte.
« Par le sang et les cendres !»
marmonna Daïelin.
Le monde entier va-t-il entrer ici ?
Elaine reconnut la voix. Cette convocation, elle l'attendait, sans savoir quand elle viendrait. Mais avec la certitude qu'elle devrait y répondre sur le champ. Regrettant de ne pas avoir un peu plus de temps pour préciser les choses à Taïm, elle se leva. Perplexe, le faux dragon regarda la femme qui venait d'entrer, puis il se tourna vers Elaine.
qu'il se pose donc des questions. Ça l'occuperait jusqu'à ce que la future reine ait le temps de lui mettre les points sur les i concernant les prérogatives des Achamans dans son royaume. Aussi grande que les deux compagnons de Taïm, et plus rondelette que toutes les Aïel qu'Elaine avait vues, Nadere riva ses grands yeux verts sur les Achamans, les évalua, puis s'en détourna. Ces hommes n'impressionnaient pas les matriarches. D'ailleurs, quasiment rien n'y parvenait. Nadere tira sur son châle, faisant intinabuler ses bracelets, puis elle vint se camper devant Elaine, sans se soucier de Taïm. Malgré le froid mordant, elle ne portait sous son châle qu'un fin chemisier blanc. En revanche, un lourd manteau de laine, soigneusement plié, reposait sur son bras gauche.
« Tu dois venir, »
dit-elle à Elaine.
« Tout de suite. »
Taïm plissa tant le front que ses sourcils manquèrent se rejoindre. À l'évidence, il n'avait pas l'habitude qu'on le dédaigne ainsi.
« Par la lumière des cieux !»
marmonna Dagéline. Elle se massa le front.
« Je ne sais pas à quoi ça rime, Nadere, mais tu devras attendre que... »
Elaine posa une main sur le bras de la noble dame.
« Tu ne sais pas, en effet. Et ça ne peut pas attendre. Nadere, je renvoie tout ce petit monde et je te suis. »
La matriarche secoua la tête.
« Un enfant sur le point de naître ne peut pas s'offrir le luxe de renvoyer des gens. »
Elle secoua le manteau.
« J'ai apporté ce vêtement pour protéger ta peau du froid. Dois-je le laisser ici et dire à Avienda que ta pudeur est plus forte que ton désir d'avoir une sœur ?»
Comprenant soudain, Dayelin poussa un petit cri. Dans le lien, Elaine sentit l'indignation de Birgit. Il n'y avait pas d'alternative. Laissant le cercle se dissiper, Elaine se coupa de la source, Laura continua à envelopper Renail et Myrilil.
Tu m'aides à déboutonner ma robe, Dagelin ?
Elaine se rengorgea de parler d'un ton si calme.
Je m'attendais à ça, mais pas devant tant de témoins.
Pour ne pas le voir la reluquer, elle tourna le dos à Taïm, puis s'attaqua au petit bouton sur ses manches.
Dagelin, s'il te plaît !
Comme une somnambule, Dagelin approcha et s'occupa du dos d'Elaine en marmonnant entre ses dents serrées. Près de la porte, un des Achamans ricana.
« Demi-tour, droite !»
ordonna Taïm. Des bruits de bottes indiquèrent que ces hommes lui obéissaient. Elaine se demanda si c'était lui aussi détourné. Quoi qu'il en soit, elle sentait son regard peser sur elle. Soudain, Birgit approcha, puis fut rejointe par Myrilil, Zaïda, Réhenne et même Reneil. Serrées les unes contre les autres, les cinq femmes formèrent un cercle pour isoler Elaine des regards masculins. Une protection partielle, puisqu'aucune n'était aussi grande que la jeune femme, Zaïda et Myrilil lui arrivant à peine à l'épaule.
« Concentre-toi. Tu es calme, sereine, et tu te déshabilles dans une pièce pleine de monde. Voilà ce que tu fais. »
Accélérant le rythme, Elaine laissa glisser sur le sol sa robe et son chemisier, puis elle jeta dessus ses pantoufles et ses bas. Exposée à l'air frisquet, elle eut aussitôt la chair de poule. Ne pas sentir le froid n'empêchait pas de trembler. En revanche, difficile d'ignorer le rouge qui lui montait aux joues, tant celle-ci devenait brûlante.
« De la folie !»
grogna Dayelin.
« C'est de la folie !»« C'est quoi cette histoire ?»
demanda Birgit.
« Tu veux que je vienne avec toi ?»« Non, je dois y aller seule. Pas de discussion. »
Extérieurement, l'archère ne semblait pas disposée à polémiquer. Mais le lien racontait une toute autre histoire. Elaine retira ses boucles d'oreilles en or, les tendit à sa championne, puis hésita un peu avant de répéter l'opération avec sa bague au serpent. Les matriarches lui avaient précisé de venir nue comme une enfant qui va naître. Parmi une cataracte de consignes, figurait celle de ne rien dire à personne sur ce qui allait arriver. Pas trop difficile, puisqu'Elaine l'ignorait aussi. Après tout, à la naissance, on n'avait aucune idée de ce que serait la suite. Marmonnant à son tour, Birgit fit écho à Dagelin. Nadere approcha avec le manteau. Elle se contenta de le tendre à Elaine, qui dut le poser sur ses épaules et s'envelopper dedans. Malgré tout, elle continua à sentir peser sur elle le regard de Taïm. Une fois couverte, elle eut envie de fuir à toutes jambes. Mais elle se força à se redresser puis à se diriger lentement vers la sortie. Hors de question de se défiler, furtive et honteuse.
Faisant face aux portes, les compagnons de Taïm se tenaient quasiment au garde-à-vous. Le faux dragon, lui, les bras croisés, contemplait les flammes. À part Nadere, les autres femmes regardaient Elaine avec un mélange de curiosité, d'accablement et de trouble. Laïel commençait à s'impatienter. Elaine prit son ton le plus régalien.
« Maîtresse Arfor, avant qu'il s'en aille, offrez du vin à Maître Taïm et à ses hommes. »
Régalien, ce ton. Au moins, la voix ne tremblait pas.
« Dailin, s'il te plaît, occupe-toi de la maîtresse des vagues et de la régente des vents, et tente d'apaiser leurs angoisses. Birgit, je compte bien entendre dès ce soir ton plan de recrutement. »
Les trois femmes sursautèrent, puis acquiescèrent, l'air absente. Elaine sortit, suivie par Nadere. Niveau majesté, elle aurait pu mieux faire, mais c'était trop tard pour revenir en arrière. Avant que les portes se referment, elle entendit Zaïda souffler.
« Eh bien, ils ont de drôles de coutumes, ces continentaux. »
Dans le couloir, Elaine tenta d'avancer un peu plus vite. En empêchant le manteau de s'ouvrir, ça se révéla plutôt difficile. Parfois, les boutons pouvaient être bien utiles. Les dalles rouges et blanches se révélèrent bien plus froides que les tapis du salon. Bien au chaud dans leur livrée d'hiver, quelques domestiques écarquillèrent les yeux en apercevant Elaine, puis ils filèrent vaquer leurs occupations. Avec les courants d'air, la lumière des lampes vacillait en permanence. Parfois, le souffle était assez fort pour faire onduler une penture.
« C'était délibéré, n'est-ce pas ?»
dit Elaine à Nadere. « Pas vraiment une question. »
« Quel que soit le moment, tu te serais débrouillé pour venir me chercher devant plusieurs témoins, afin de confirmer qu'adopter Avienda compte beaucoup à mes yeux. »
Les matriarches avaient même souligné que ça devait compter bien plus que tout le reste.
« Et à elle, que lui avez-vous fait ?»
Très peu pudique, Avienda se promenait souvent nue dans ses appartements et ne bronchait pas quand des serviteurs y entraient. La forcer à se dévêtir en public n'aurait rien prouvé du tout.
« Si elle le désire, ce sera à elle de te le dire. »
répondit Nadere, hautaine.
« Mais tu es très observatrice. Bien des gens ne le sont pas. »
Laïel eut une sorte de sourire qui fit osciller son opulente poitrine.
Ces hommes qui tournaient le dos et ces femmes qui te protégeaient. J'aurais remis de l'ordre dans tout ça, si l'homme à la veste brodée ne t'avait pas reluqué en douce. Et si tu n'avais pas rougi, la preuve que tu le savais.
Elaine manqua un pas et trébucha. Le manteau s'ouvrit, laissant échapper le peu de chaleur corporelle qui lui restait.
Ce porc ignoble ! Je...
Que pouvait-elle faire ? En parler à Rand ? Pour qu'ils punissent Taïm, plutôt crever.
La plupart des hommes aiment regarder nos fesses,
dit Nadere, l'air perplexe.
Cesse de penser à eux, et occupe-toi plutôt de la femme que tu veux prendre pour sœur.
Rougissant de nouveau, Elaine se concentra sur Avienda, mais ça ne la calma pas. On lui avait ordonné de penser à plusieurs choses avant la cérémonie, et certaines la mettaient mal à l'aise. Nadere, à ses côtés, elle s'efforça d'empêcher le manteau de s'ouvrir pour dévoiler ses jambes. Des serviteurs allaient et venaient partout et marcha assez lentement. Il fallut donc beaucoup de temps pour que les deux femmes atteignent la pièce où attendaient les matriarches. Une bonne quinzaine, en jupe, chemisier blanc et châle sombre, avec leur collection habituelle de colliers et de bracelets en or ou en ivoire. Les meubles et les tapis évacués, la pièce était vide et aucun feu ne brûlait dans la cheminée. Au cœur du palais et en l'absence de fenêtres, les roulements de tonnerre s'entendaient à peine. Elaine riva les yeux sur Avienda, debout à l'autre extrémité de la pièce. Nue comme un ver, elle sourit nerveusement à sa future sœur. Nerveusement, Avienda ? Laïel eut un petit rire. Après une brève hésitation, Elaine l'imita. L'air était glacial, bon sang, et le sol encore plus froid. Parmi les matriarches, presque toutes des inconnues, la future reine distingua un visage familier. Avec ses traits encore jeunes et ses cheveux blancs, Amis aurait pu passer pour une Aes Sedai. Elle avait dû voyager pour venir de Kyrienne. En échange de ce qu'elle lui avait appris sur Tel Aran Riod, Elaine avait enseigné ce don aux matriarches capables de marcher dans les rêves. Pour rembourser une dette, avait-elle ajouté, sans jamais préciser laquelle.
J'aurais aimé que Mélaine soit là.
dit-elle. Elle appréciait beaucoup l'épouse de Béal, une femme pleine de chaleur et généreuse. Pas comme les deux autres matriarches qu'elle reconnut. La squelettique Tamella, avec ses traits anguleux, et Viandré, magnifique avec son profil d'oiseau de proie et ses yeux bleus. Des femmes bien plus puissantes qu'elle dans le pouvoir, supérieures à toutes les sœurs en fait, à part Ninevée. Entre les Aiel, cette hiérarchie n'existait pas. Mais pour quelle autre raison ces deux-là l'auraient-elles depuis toujours regardé de haut? Elaine pensait qu'Amis prendrait les choses en main, comme d'habitude, mais ce fut Monael, une petite femme aux cheveux blonds tirant sur le roux, qui fit un pas en avant. Petite, tout était relatif. La seule, en tout cas, qui ne fut pas plus grande qu'Elaine. Et la moins puissante dans le pouvoir. Presque trop faible pour mériter le châle, si elle était allée à Tarvalon. Cette hiérarchie-là n'avait peut-être vraiment aucune importance entre les matriarches.
« Si Mélaine était présente, »
dit Monael d'un ton brusque mais pas inamical,
« les bébés qu'elle porte seraient impliqués dans le lien qui va être créé entre vous deux. Pour ça, il aurait fallu que les tissages les frôlent et qu'ils survivent. Les enfants à naître ne sont pas encore assez forts pour y parvenir. La question, c'est de savoir si vous l'êtes. »
Des deux mains, Laiel désigna des points sur le sol, non loin d'elle.
« Venez au centre de la pièce. »
Elaine comprit que le Saïdar allait avoir un rôle à jouer dans la cérémonie. Jusque-là, elle s'attendait à un échange de vœux et peut-être de serments. Qu'allait-il donc se passer? Elle était prête à tout, sauf que, d'un pas hésitant, elle approcha de Monael.
« Ma championne, notre lien sera-t-il affecté ?»
Venue se camper en face d'Elaine, Avienda s'était rembrunie en la voyant hésiter. Quand elle entendit la question, elle tourna vers Monael de grands yeux interrogateurs. À l'évidence, elle n'avait pas pensé à ça. La matriarche secoua la tête.
« Hors de cette pièce, nul ne sera touché par les tissages. Ta championne sentira que tu es liée à quelqu'un d'autre, mais très vaguement. »
Avienda soupira de soulagement, et Elaine lui fit écho.
« Nous avons un protocole à suivre, »
continua Monael.
« Venez, nous ne sommes pas des chefs de tribu qui boivent de l'ouskaï en débattant des serments de l'eau. »
En lançant ce qui semblait être des blagues sur les chefs et leur intempérance, les autres matriarches formèrent un cercle autour d'Avienda et Elaine. Monael s'assit en tailleur sur le sol, non loin des deux femmes nues. Dès qu'elle parla, les rires cessèrent.
« Nous sommes réunis parce que deux femmes désirent devenir premières sœurs. Nous allons déterminer si elles sont assez fortes, et dans l'affirmative, nous les aiderons. Leurs mères sont-elles présentes ?»
Elaine sursauta, mais Viendré se plaça derrière elle.
« Je suis ici à la place de Morgaz Trakande, qui n'a pas pu venir. »
Les mains sur les épaules d'Elaine, Viendré la força à s'agenouiller devant Avienda, puis elle s'accroupit derrière elle.
J'offre ma fille à l'épreuve.
Tamella se campa derrière Avienda et la fit se baisser, ses genoux touchant presque ceux d'Elaine.
Je suis là à la place de la mère d'Avienda, qui n'a pas pu venir, et j'offre ma fille à l'épreuve.
En d'autres circonstances, Elaine aurait souri. Chacune des mères semblait avoir 5 ou 6 ans de plus au maximum que sa fille. Mais l'heure n'était pas à la rigolade. L'air très grave, les matriarches debout dans le cercle les regardaient, Avienda et elle, comme si elles les évaluaient et n'étaient pas très satisfaites du résultat.
« Qui endurera les tourments de la naissance pour elle ?»
demanda Monael. Amis s'avança. Deux autres femmes l'imitèrent. Chianda, une flamboyante rousse qu'Hélène avait parfois vue avec Mélaine, et une aïelle grisonnante qu'elle ne connaissait pas. Ses assistantes aidèrent Amis à se déshabiller. Quand ce fut fait, se tournant vers Monael, elle tapota son ventre plat.
« J'ai porté des enfants et je les ai allaités, »
dit-elle en prenant en main des seins qui semblaient n'avoir rien fait de tel.
« Je m'offre à l'épreuve. »
Quand Monael eut accepté d'un hochement de tête, Amis s'agenouilla près d'Avienda et Elaine. Les deux mères vinrent la flanquer. En un clin d'œil, l'aura du pouvoir enveloppa toutes les femmes à part Elaine, Avienda et Amis. La future reine prit une grande inspiration et vit que son amie faisait de même.
Dans un silence à peine troublé par les lointains roulements de tonnerre et des cliquetis de bracelets occasionnels, Monael prit la parole.
« Toutes les deux, vous allez faire ce qu'on vous demandera. Si vous hésitez ou posez des questions, ça prouvera que vous n'êtes pas prête. Je vous renverrai, et nous en aurons à tout jamais terminé avec cette affaire. Je vais vous interroger et vous répondrai sincèrement. En cas de refus, je vous renverrai aussi. Bien entendu, vous pourrez vous retirer à n'importe quel moment. Toute seconde chance étant exclue, ça mettra un terme au processus. Commençons. Quelle est la plus grande qualité de la femme que vous voulez prendre pour première sœur ? »